liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de poutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 9, année 2013. Salut Manu.
Salut Luc.
Eh bien, parle-nous du sommaire.
Eh bien, au sommaire, donc, on a en tout quelques 16 articles, dont 8 principaux. Donc, on va vous parler d'humanitaire, de mobile, le copyright, les données libres ou gratuites, VLC et la DPI, on y revient, on aime bien, les universités, l'argent, le logiciel libre, le modèle peer-to-peer et le capitalisme. Et pour finir, on reparle du ministère de la Défense, ça nous fait plaisir.
Métro, humanitaire 2.0, aider avec son clavier, un article de Mathias Marchal.
Donc c'est le journal gratuit qui nous parle d'humanitaire, donc humanitaire, notamment au niveau de la cartographie.
Et oui, d'OpenStreetMap, donc c'est une chose, on a régulièrement, je pense, parlé d'OpenStreetMap, c'est une partie du projet qui est assez peu connue, et qui sont en fait des bénévoles qui s'organisent pour faire de la cartographie lors d'événements de type catastrophe naturelle, guerre et ce genre de choses. Donc ils travaillent avec des photos aériennes, des photos satellites, les petites mains vont s'organiser pour dresser une cartographie à jour des sites et pour voir où sont les routes coupées, où sont les camps de réfugiés, etc.
C'est particulièrement utile. Ça l'a notamment été à Haïti quand justement il y avait des milliers de maisons qui étaient tombées. Il y avait besoin d'essayer de retrouver grâce à des cartes satellites où étaient les camps de réfugiés, où étaient les personnes à sauver. Ça a été aussi le cas à Bagdad parce qu'il n'y avait personne d'autre pour cartographier que des volontaires. Et puis il me semble qu'en Asie centrale aussi, où il y a eu plein de problèmes, c'était très pratique. À tel point que justement maintenant l'ONU et les différentes organisations de l'humanitaire, eh bien, ils ont noté cela et elles s'entraident, elles aident de plus en plus et elles poussent pour avoir des retours.
Sur ces associations-là. Et l'article dit même que les sceptiques qui pouvaient voir l'ONU ailleurs se sont laissés convaincre. Donc voilà, c'est un bel exemple, ça marche très très bien. Alors on avait parlé avec quelqu'un qui avait, il y a quelques temps, qui avait fait des trucs de ce type-là, alors pas exactement dans ces assauts-là. Et donc on avait un petit peu parlé de ça. N'importe qui peut intégrer ces projets-là. Par contre, il faut pouvoir communiquer en anglais. Donc il faut avoir un niveau d'anglais relativement correct, pouvoir échanger. Mais n'importe qui peut se présenter sur ces projets-là. Allez, sur OpenStreetMap.
N'oubliez pas, vous pouvez commencer local, allez voir si dans votre ville, dans le coin, il n'y aurait pas besoin de cartographier un petit peu les chemins alentours. C'est un bon début, et ensuite passer à l'échelle internationale pour aider votre prochain. Il n'y a rien de tel, c'est un super projet.
Le matin, MWC 2013, les mobiles Firefox doivent ruser contre les brevets, un article de Simon Koch. Gore, je ne sais pas où.
Donc il y avait pas mal d'articles cette semaine, ça doit être le Mobile World Congress, Consortium, en tout cas un gros truc de mobile. Et justement, Firefox OS, mais aussi Android et d'autres, ce sont des systèmes d'exploitation libres et qui arrivent sur les portables, branle-bas de combat, parce que il faut qu'ils se battent pour avoir leur place, il faut qu'on les accueille. Et en plus de ça, ils doivent se battre contre des lois débiles comme les brevets logiciels.
Ce ne sont pas des lois, ce sont des brevets. Et effectivement, donc Firefox OS, donc le système d'exploitation pour mobile de Mozilla, qui reprend le nom Firefox parce que c'est vraiment la marque la plus connue. Il débarque, hein, pour mémoire, il s'appuie sur le HTML5, donc c'est totalement opérable, standard. Donc on ne sera pas retrouvé coincé dans des applications faites par tel ou tel fournisseur.
Je rajouterais qu'HTML5, vous pouvez développer à la fois pour Firefox OS, mais aussi pour Android, pour iOS, pour plein d'autres trucs, genre WebOS.
Tous ces systèmes d'exploitation sont capables de lire du HTML5, hein, c'est ce qu'on lit dans un navigateur Internet, et ça permet de faire plein de trucs. Et sujet intéressant et qui appuie tout notre combat contre les brevets logiciels et qui démontre l'absurdité du truc, c'est que ils arrivent évidemment sur le tard et qu'il y a plein de brevets dans tous les sens sur des solutions logicielles pour répondre à des problèmes et que du coup ils sont obligés de mettre les pieds dessus parce que tout est déjà verrouillé par des brevets et donc il n'y a plus moyen de rentrer là-dedans sans se mettre dans une position très délicate.
Oui, c'est un vrai champ de mine. Les petites fonctionnalités dont certains sont habitués, ne serait-ce que débloquer son téléphone, poser votre doigt et vous faites un slide, vous le mettez de côté, ne serait-ce que ça, c'est breveté, donc ils sont obligés de trouver d'autres solutions, et il y en a plein d'autres, hein, les icônes, les horloges et autres bêtises, donc c'est un terrain miné, c'est une vraie galère. Ceci dit, ils ont quand même réussi à avancer, ils ont quand même réussi à fournir un système d'exploitation, bravo. Je rappelle, ils ciblent les petits téléphones, les téléphones à peu de capacité, parce que qui peut le moins, un peu le plus.
Voilà, c'est le début, hein, c'est leur premier truc, c'est ZTE, je crois, qui va déployer ça pour commencer, et dans un premier temps, ils visent les marchés en Chine notamment, où il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de sous, donc commencer sur des petites configs.
Allez voir, hein, y a d'autres articles qui en parlent encore, et qui reparlent justement de comment combattre le duopole Google-Apple. Il y a besoin de travail. travail et voilà, ces petits gars de Mozilla, ils sont là pour nous aider.
EFF.org, la propagande du copyright s'offre un nouvel acteur, votre fournisseur d'accès à Internet. Un article de Corinne McSherry, donc traduit par le Framablog.
C'est une grosse bêtise qui vient d'arriver, les Américains nous ont copié.
On peut faire cocorico? Non, pas trop, pas tellement. Donc ça ressemble effectivement furieusement à Adopi. L'idée, c'est des accords qui vont être passés. Alors c'est pas une loi qui s'applique à tout le monde, mais c'est des accords qui sont passés entre fournisseurs d'accès et les ayants droit. Et on retrouve à peu près le même principe, hein, surveillance de ce qui va être téléchargé, avertissement et sécurisation du Wi-Fi notamment. Une recette qu'on connaît bien et qui ne marche pas.
Non, elle marche pas du tout. Heureusement, en France, on commence à devenir sceptique face à ce bidule. Mais justement, eux, ils sont en train de le mettre en place. C'est un peu rageant. Alors, je rappelle, nous, en France, c'est 3 fois. Vous avez le droit, en gros, à 3 fois avant de vous faire couper votre ligne. Là, c'est prévu que ce soit 6 fois. Bon, on va aller savoir. Mais à la fin, on coupe pas votre ligne. Je crois que c'est plutôt question de payer, d'avoir votre bande passante qui est diminuée. Et on va vous embêter avec des pop-up dans votre navigateur, ce qui va sûrement déclencher plein d'autres problèmes, j'en doute pas. Donc, ce qui est rageant, voilà, c'est que c'est des acteurs privés qui se permettent de s'immiscer dans votre connexion Internet. Faut espérer que ça reste aux États-Unis pour le coup.
En même temps, voilà, c'est les États-Unis, donc ça n'est pas totalement surprenant, mais bref. Écran, gratuit ou libre, les données ne sont pas données. Un article de Simon Descarpentries et Johan Boniface.
Des petits gars qu'on connaît par ailleurs, donc on aime bien, hein, Siltar notamment. Donc là, on parle d'open data, justement, il faut pouvoir partager, il faut pouvoir ouvrir. Et il y a un exemple qui est mis en avant tout de suite.
Et oui, on parle encore de cartographie. Cet article a été motivé par une réaction à un service offert par l'IGN qui donne un accès gratuit à sa cartographie.
Ouais.
Et le propos de l'article, c'est de dire c'est bien gentil, mais c'est pas libre. Et libre n'est pas gratuit. Cette phrase, on peut la retourner dans plein de sens. Elle est assez riche, en fait. Et dans l'idée, ils disent ok, d'accord, c'est gratuit, mais on peut pas monter de business dessus parce que on a des tas de limitations sur ces données-là. Notamment, on n'a pas le droit de les modifier, on n'a pas le droit de faire du commerce avec. Donc, ok, c'est gratuit. Et après.
C'est rageant parce que je rappelle, hein, ce sont des données qui sont d'une manière ou d'une autre payées par l'État, donc payées par nous. Donc c'est un peu énervant de penser qu'il faut encore repayer pour avoir des droits, pour paraître intéressant. Et justement, il y a des petits gars qui se disent, nous on va vouloir réutiliser, on va vouloir par exemple modifier les cartographies qu'on a sous la main. Non, là on n'a pas le droit. Et donc des gars qui veulent cartographier par exemple des itinéraires de vélo, quelque chose qui n'était pas forcément prévu, ils ont été obligés de se retourner sur quoi ? Sur OpenStreetMap. Youhou, c'est super, hein, mais IGN, pour le coup, il passe à côté de la...
Ils avaient regardé IGN en premier, mais c'était juste dans les conditions d'utilisation, pas possible. Donc encore une fois, le libre, c'est pas que c'est gratuit, c'est gratuit souvent, mais c'est pas le principal intérêt. Le principal intérêt, c'est qu'on peut construire des choses avec. Et ça, c'est un truc qu'ils ont manifestement beaucoup de mal à comprendre. PC Impact, VLC Adopi. Pour Maître Hugo, les clés doivent être communiquées. Un article de Marc Reiss.
Donc on reparle encore une fois des épisodes de VLC, VLC contre la Adopi.
Donc, pas contre la Adopi, ils ont demandé l'avis de la Adopi.
Oui, mais l'avis de la Adopi, on pourrait dire, c'est un peu une fermeture de porte, une grosse porte dans la tête. Sauf que là, il y a quelqu'un qui montre un petit peu, qui donne son opinion, et son opinion, c'est qu'il faut ouvrir la porte et il faut donner les clés.
Oui, on le rappelle, donc il y avait dans la loi une notion de document, de spécification qui devait expliquer comment ça marche, pour assurer l'interopérabilité, c'est-à-dire permettre à n'importe qui de lire le Blu-ray qu'il a acheté avec le lecteur de son choix, y compris VLC. Donc effectivement, on a besoin de décrire comment le format Blu-ray fonctionne, mais il y a cette notion de clé, c'est juste de la cryptographie ou du chiffrement, il y a une différence entre les deux, mais j'y connais rien.
C'est la traduction, c'est la traduction.
Voilà. Et ça, c'est indispensable, et donc même si on a les spécifications, cette clé, elle est nécessaire.
Et oui, de toute façon, c'est son principe, elle verrouille si on ne l'a pas, donc quand on ne l'a pas, on ne peut pas faire grand-chose avec notre support, avec les données qu'on a sur notre galette.
Voilà, donc l'Adopi se dirigeait vers une solution qui disait, en gros, on va donner les specs, mais la clé ne sera pas communiquée, et donc cette personne qui est avocat,
Maître Hugo,
revient sur les débats de la loi pour dire, mais quel est l'esprit de la loi, dans quel sens ça a été discuté, voté, et il dit, l'intérêt général doit passer avant l'intérêt particulier.
Et même la loi le dit, l'interopérabilité passe avant le blocage, avant les DRM. C'est un objectif d'importance européenne qui est mis en avant. Et donc la loi n'a pas spécifié exactement qu'est-ce qu'il fallait pour l'interopérabilité. Elle a juste dit il en faut. Et s'il faut filer la documentation, les spécifications, mais aussi les clés pour pouvoir y accéder, la loi ne limite pas les moyens qui doivent être fournis. Elle dit juste il faut fournir ces moyens. Et donc là, il met en avant quelque chose qui me paraît assez logique. Il faut filer les clés. Ce qui casse l'intérêt des DRM, faut bien l'avouer, mais en même temps, nous on le dit depuis le début, les DRM c'est pas vraiment utile dans un esprit, c'est pas fonctionnel dans un esprit libre, parce que vous partagez, donc là il faut partager les clés, on va les demander,
oui,
on va les demander.
Ça interdit à chacun de lire le Blu-ray ou autre format dérémisé qu'il a acheté avec ses sous, très légitimement. Et il n'y a pas de raison que les gens qui nous le vendent décident à notre place dans quelles conditions on peut le lire.
Ça le bloque légalement, en tout cas. Hein. Je rappelle, il y a des petits gars qui ne s'embêtent pas et qui craquent, mais après tout...
Mais légalement, l'interopérabilité...
Le permettrait.
Le Devoir.com, financement des universités, le logiciel libre pour sortir de la crise, un article de Fabien Déglise. Donc ça se passe au Québec.
Et oui, le Québec, hein, on les adore parce que régulièrement ils reviennent sur la scène. Et là, ils bougent un peu encore les choses. Ils parlent de financement des universités, de logiciel libre et de crise économique.
Bah, c'est guerre de tranchées hein, et de positions. À chaque fois que quelqu'un hurle qu'il a plus les budgets, on dit les gars, passez au logiciel libre, ça vous fera économiser pas mal d'argent. Je disais tout à l'heure que le côté gratuit n'était pas... Et c'est pas ça qui était important. Mais les gains, ils se font pas que sur les frais de licence. Il y a plein d'autres avantages. Et puis, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire valoir malgré tout. Donc, là, c'est 650 millions de dollars sur 10 ans, dollars canadiens, je suppose, qui pourraient être économisés par une université canadienne si elle passait le logiciel libre.
Ils s'avancent directement dessus. Ils parlent de logiciels privateurs. Ils disent, il y a des sommes de 500 000 dollars par-ci, par-là. Ça correspond à des cours, 60 heures de cours, par exemple, pour ce genre de sommes. Donc, on aurait mieux à faire de l'argent, des ressources, plutôt que de les envoyer leur ami états-unien, leur ami du Sud. Mais effectivement, faire travailler les gens localement, utiliser du libre, c'est quand même tellement mieux. Et puis en plus, dans l'éducation, c'est quand même plus pratique pour tout le monde et pour apprendre.
WeShare, Michel Bowens, le modèle P2P et le capitalisme sont encore interdépendants. Un article de Émile Houge. Voilà, si j'écorche son nom, il faut qu'il me pardonne. Une orthographe un peu particulière.
Donc on aborde encore de la politique, de l'économie. On a parlé de communisme 2.0 il y a quelques semaines. Et là, on parle de capitalisme et peer-to-peer.
Et ce qui est très intéressant avec cet article, c'est qu'il y a la description d'une économie peer-to-peer. Donc c'est le terme utilisé par l'auteur.
Donc peer-to-peer, c'est de pair à pair. Hein. Donc on est tous des égaux et il n'y a pas de moyen centralisé.
Décentralisé. Donc c'est intéressant parce que ce n'est pas le recyclage d'une idée, d'une théorie économique plus ancienne, une remise au goût du jour. C'est vraiment l'idée d'avoir un modèle économique au sens large de l'économie qui est décrit au travers de ça. Donc on retrouve tous les principes de partage, de bien commun, de coopétition. Il insiste bien sur le fait que c'est pas le pays des bisounours, hein, il reste de la compétition. Et ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il met au centre de ce truc-là l'envie de chacun de faire tourner le collectif et de faire tourner la société du mieux possible. Sachant que dans le capitalisme, avec les notions de loi du marché, on a cette idée que chacun doit ne se soucier que de son intérêt personnel et que la main invisible du marché fera que ça ira dans la direction de l'intérêt général. On a un certain nombre à penser que ce n'est pas tout à fait convaincant.
Non, il y a certainement plein d'évolutions possibles et imaginables. Et bien là, il en imagine. On reparle de Fab Labs, les imprimantes 3D, par exemple, ces choses-là.
Et parle de logiciels libres aussi, bien sûr.
Et oui, parce que ça fait partie d'un nouveau modèle, ça fait partie de nouvelles idées qui sont sur la table. Et là, vous pouvez aller lire cet article pour voir un petit peu, justement, ces idées, dans quelle direction ça peut aller. Vous-même, vous pourrez peut-être en avoir des nouvelles.
Voilà, et puis il est clair, le lien qu'il peut y avoir entre ce nouveau modèle émergent et l'ancien modèle du capitalisme, puisque tout ça, effectivement, se côtoie, quand même des influences entre les uns et les autres. Enfin bref, l'article est vraiment intéressant et très original. CIOonline.com, l'informatique du ministère de la Défense sous le tir croisé de deux polémiques, un article de Bertrand Lemaire.
Moi, ça me fait presque plaisir parce que il y a eu un lièvre qui a été levé il n'y a pas longtemps. Le ministère de la Défense va repasser un contrat avec Microsoft.
On en a parlé depuis deux ou trois semaines déjà.
Voilà, donc là, ils réabordent le sujet, mais en plus de ça, ils sont mauvais au niveau de leur informatique, notamment avec leur logiciel de paye.
Et je l'avais évoqué la semaine dernière. Hein.
N'est-ce
donc,
pas
comme quoi,
t'étais bien en avance. Donc, si vous voulez aller rire un moment, parce que ça fait un peu plaisir de voir les gros se s'emberlificoter comme ça. Mais là, ils y vont fort parce que justement, il y a des gros budgets qui sont en jeu et puis ils se plantent dans la largeur.
Donc l'April est largement cité dans cet article, donc ça fait plaisir. Et c'est CIO Online, hein, c'est Management des Systèmes d'Information, donc c'est plutôt une publication qui s'adresse aux responsables. Donc cette affaire fait tâche, et elle s'étend, donc c'est très bien.
Bon, sur ce, on verra si on en reparle la semaine prochaine. Hein,
Probablement.
Je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, salut.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vineau. La revue de presse de l'April, c'est aussi dans Divergence numérique tous les jeudis à 12h30 et 17h30.